Bonjour monsieur, l'émission Gare à vous sur la première. Nous sommes à Sonsbeau, Sombeval. Ça se situe où?
Dans le Jura.
Allez. Jura bernois.
Oui, mais non, c'est plus de toute façon.
Ah, c'est
ça,
bernois.
Ça change tout le temps.
Non, c'est Grand Chasseral. L'appellation de la région. Grand Chasseral.
Alors on y va.
Le GAV numéro 1 en provenance de 10h et à destination de 11h va partir. En voiture, s'il vous plaît. Gare à vous, une émission de Duja.
Amis de la culture, des gares et de l'histoire, bonjour, bonjour à vous, gare à vous. Cette semaine, direction Sonsbeau, Sombeval, avec notamment les 150 ans de l'introduction des chemins de fer dans le Jura bernois avec Francis Detvillers. Mais avant, il y aura de l'histoire avec Francis Boyat, il y aura de l'économie avec Patrick Linder, qui est directeur de la Chambre d'économie publique Grand Chasseral. Mais qu'est-ce que c'est dont vous le saurez bien évidemment dans Gare à vous. Et nous terminerons au quai 29 avec Sarah et Sandra qui ont ouvert un magasin conceptuel. Gare à vous, Sonsbeau, go!
Gare à vous.
Sonsbeau à 13 minutes en train de Bienne. Bon voyage. En voiture, s'il vous plaît. Sonsbeau, Sombeval, avec Francis Detvillers qui fut président du conseil d'administration des chemins de fer du Jura et qui publie un article dans la revue Intervalle lié à cet événement célébré lors des journées du patrimoine le 7 et 8 septembre. À vos agendas. Je ne parle pas trop fort parce que je suis dans le train, il y a du monde. J'aimerais pas déranger les gens qui sont sur haut-parleur avec leur téléphone. Me voici arrivé à Sonsbeau, gare à vous, à Sonsbeau, Sombeval, avec Francis Detvillers. Bonjour.
Bonjour.
Alors cet article qui va paraître dans la revue Intervalle, il traite des 150 ans de l'introduction des chemins de fer dans le Jura bernois. Ça vous fascine cette histoire-là?
Le chemin de fer m'a toujours intéressé depuis ma plus tendre enfance, je dois dire. Et en plus, j'ai aussi un intérêt pour l'histoire. Donc tous les ingrédients étaient réunis pour s'intéresser à cet enjeu.
Est-ce qu'on peut revenir sur cette histoire? 150 ans, ça a l'air vieux. Pourtant, ce n'est pas forcément la Suisse qui était à la pointe en matière de développement ferroviaire au XIXe siècle.
Je ne sais plus qui a dit une fois que les Suisses se levaient tôt et se réveillaient tard. Je pense qu'on peut dire que c'était valable pour le chemin de fer. Plusieurs raisons l'expliquent, en particulier le morcellement politique suite à, qu'on connaissait avec la Confédération d'État de 1815, avec les compétences des cantons où chacun avait encore leur monnaie, il y avait des douanes. Donc aussitôt, quand on parle de chemin de fer, où les distances sont quand même plus grandes qu'un déplacement à pied, par définition, on se trouve tout de suite dans plusieurs cantons. Et c'est pour ça que le premier projet d'une ligne Bâle Zurich a échoué, parce qu'il était quasiment impossible d'avoir un consensus entre les intérêts des deux Bâles, d'Argovie et de Zurich. Par exemple,
les premières lignes étaient quand même développées par des mécènes, par des privés. C'était pas la Confédération qui s'occupait de ce genre de choses.
Alors, je dirais par des privés, oui, des mécènes nettement moins. Il y avait quand même la vision là, de construire une ligne Zurich-Bâle, donc par Baden, et ensuite qui aurait dû rejoindre la ligne du Grand-Duché de Bade à Waldshut. Mais lorsque l'on lit, si je saute quelques années plus loin, le rapport de la Confédération ou du Conseil fédéral sur le rachat des chemins de fer en 1897, les appréciations qu'on retrouve sur le rôle des actionnaires privés, des compagnies, on aurait aussi pu lire les mêmes lors de la déconfiture du Crédit Suisse.
Je me souviens aussi d'émissions en Gruyère où on me racontait qu'il y avait même des projets plutôt PDC conservateurs de lignes de chemin de fer et des projets plutôt radicaux. Il y avait même des opinions politiques qui se heurtaient à travers des projets différents de lignes de chemin de fer.
Effectivement, donc à Fribourg, les radicaux étaient partisans d'un réseau en voie normale, ceux qui avaient construit le Bulle-Romont. Et puis ce qui s'appelait les chemins de fer électriques de Gruyère, qui est devenu ensuite le GFM puis TPF, c'était des chemins de fer démocrates chrétiens ou catholiques conservateurs, entre guillemets, ce qui explique aussi la configuration de la gare de Bulle à l'époque, où disons que le changement qui est acquis n'était pas la priorité.
Revenons au Jura bernois, Francis Detvillers, ça ressemblait à quoi avant l'avènement du chemin de fer, le Jura bernois? On est ici en gare de Sonsbeau, Sombeval. Est-ce qu'on arrive à prendre une machine à remonter le temps, à décrire un peu cette région?
Donc, dans les années 1850, il y avait déjà de l'horlogerie. Donc, on se souvient que la première vraie fabrique, c'était les Longines en 1867. Mais l'activité horlogère existait déjà. Il y avait également une certaine activité minière, l'exploitation du fer. Et puis, il y avait une volonté de la région de se raccorder au chemin de fer qui était vu à juste titre comme l'instrument du progrès.
Ces régions étaient isolées ou alors il y avait beaucoup de contacts avec le plateau, avec la France peut-être, avec d'autres régions, Bâle, je ne sais pas.
Je dirais qu'un des enjeux du Jura Bernois de l'époque, c'est que les contacts étaient presque plus faciles avec la France. Puis l'agent était plus vite à Belfort que plus vite à Bienne ou dans l'ancien canton. Ça jouait un rôle. Maintenant, la géographie, elle est immuable et puis on l'a aussi remarqué, ça. Parce qu'on a vu exactement les mêmes discussions quand il s'est agi de définir le tracé du réseau de chemin de fer, et puis un siècle après, le tracé de la Transjurane, par exemple.
Différents tracés, ça c'est intéressant. Pourquoi est-ce que la gare de Sonsbeau-Sombeval accueille finalement l'idée d'être un nœud ferroviaire? C'était déjà prévu, il y avait différents scénarios qui étaient élaborés, différentes visions.
Donc ce qui était acquis, en tout cas c'était une ligne qui part de Bienne, qui vienne jusqu'à Sonsbeau, et puis avec un embranchement qui part sur Moutier, Delémont et à plus long terme Lajoie et Bâle, et puis en direction du Vallon de Saint-Imier à Chaux-de-Fonds, avec d'abord la ligne qui partait sur les Conques Verts. Ce qui a donné lieu à discussion, c'était quand même le tracé, déjà l'emplacement même de la gare de Sonsbeau. La première idée, c'était de l'établir où les deux lignes se séparent, donc entre Sonsbeau et Corgémont, et puis comme le rapport de la compagnie du Jura Bernois notait, c'était très éloigné de Sonsbeau et peu rapproché de Corgémont. Je trouve que la formule assez jolie. Et puis là, les deux communes avaient été d'accord de contribuer pour 15 000 francs à ce que chacun ait leur gare. Maintenant, il y a un autre tracé qui avait aussi été étudié, qui était de partir directement plutôt depuis Reuchnet. Et puis l'enjeu, c'était de savoir, est-ce que la priorité, c'est une desserte fine des vallées ou bien le transit? Et puis c'était la notion de la desserte fine qui avait primé exactement après, comme une centaine d'années plus tard avec la Transjurane, même si avec la perte de l'Alsace-Lorraine par la France, que ça a renforcé la fonction transit du réseau du Jura Bernois, et puis qui a été une très égoïstement une bénédiction pour le Jura Bernois de l'époque.
Gare à vous. 150 ans de chemin de fer dans le Jura Bernois, un article, des articles à lire dans la revue Intervalle à l'occasion des journées du patrimoine. On reparlera de la revue Intervalle et de ces journées du patrimoine les 7 et 8 septembre. Et peut-être pour qu'on comprenne bien comment s'est construite cette ligne de chemin de fer dans le Jura Bernois. Qui a donné la pulsion? Est-ce qu'elle était politique, économique? Quels étaient les ingénieurs? Quels étaient les défis?
Donc globalement, je dirais que pas seulement dans cette région, mais que les chemins de fer, ça a été, dans toute la Suisse aussi ailleurs, un des grands enjeux politiques, mais aussi économiques de l'époque. Et c'est aussi les chemins de fer qui ont conduit au développement du système bancaire. Donc Escher, le Zurichois, était aussi le créateur de Feu le Crédit Suisse. Alors ici, les principaux moteurs du chemin de fer dans le Jura Bernois, c'était Xavier Stockmar, qui avait un allié aussi dans le canton de Berne, c'était Jakob Stempfli, qui allait devenir conseiller fédéral. Et les deux étaient partisans d'une construction et d'une exploitation des chemins de fer par les pouvoirs publics et non par les privés. Et puis également Pierre Jolicin, qui était conseiller d'État en 1866-67, quand la décision a été prise, ou en 67, de réaliser le réseau du Jura Bernois.
Petite parenthèse, Jakob Stempfli, je comprends enfin pourquoi il a une rue à son nom à Bienne.
Tout à fait, effectivement. Il a aussi joué un rôle non seulement dans la traversée alpine du Lodgeberg, mais aussi dans le développement du chemin de fer dans le Jura-Bernois.
Les ingénieurs, j'imagine qu'il y a beaucoup de tunnels à creuser à l'époque. Il y a, comment dire, aussi des prodiges qui ont dû être réalisés, des visions ingénieriques ou d'ingénierie qui étaient aussi assez audacieuses.
Je dirais que c'est aussi une des raisons pour laquelle le chemin de fer est venu relativement tard dans le Jura-Bernois, mais aussi plus ou moins dans tout l'arc jurassien, avec l'exception du canton de Neuchâtel. C'était la difficulté de construire une ligne en montagne. Et je pense que le fait que Gustave Bridel, qui a été le dernier ingénieur de la construction ici de la ligne du Jura-Bernois, est ensuite allé occuper le même poste sur la ligne du Gothard. Donc il a eu l'occasion, comment dirais-je, de se faire les dents ici dans le Jura-Bernois. Mais les photos de l'époque montrent aussi la difficulté des travaux, notamment dans le temps au Benloch.
Les ouvriers, les gens qui creusaient les tunnels, on sait qu'on a employé beaucoup de gens, peut-être d'Autriche, d'Italie, à une certaine période. C'était aussi des gens qu'on faisait venir d'autres pays.
Il y a effectivement une assez grande proportion de travailleurs étrangers ici qui sont venus dans le Jura-Bernois, comme aussi dans d'autres chantiers, après le Moutier-Grange par exemple.
Ils sont restés ?
Il y en a qui sont restés, d'autres pas. Il y en a qui sont aussi partis ensuite sur d'autres chantiers, vu que la construction du chemin de fer était loin d'être achevée une fois que les lignes ici étaient construites.
Ça me rappelle une anecdote assez croustillante. Je vois ce panneau de la gare de Sonsbo-Sombval et j'ai un ami d'origine italienne, des Pouilles. Il me raconte que ses oncles ou ses arrière-grands-oncles venaient ici pour trouver du travail et ils se donnaient rendez-vous à la gare de Sonchebots. Donc pour trouver la gare de Sonchebots, c'est comme pour aller peut-être en Lavaux et demander c'est où Chex-Brest.
Oui, par exemple, c'est une bonne illustration.
Elle a marqué aussi la région, cette immigration italienne ou d'autres pays, vous qui étiez aussi, qui êtes peut-être toujours socialiste, vous avez des mandats politiques, peut-être il y a un lien aussi entre cette immigration, cet amour du chemin de fer, la défense des ouvriers.
Alors je crois qu'il y a eu certains problèmes où les ouvriers étrangers avaient un certain succès auprès des filles de la région et tout le monde le vivait pas forcément bien.
À l'école quand j'étais petit, je n'avais pas beaucoup d'amis. J'aurais voulu m'appeler Dupont. Avoir les yeux un peu plus clairs, je rêvais d'être un enfant blanc. J'en voulais un peu à mon père. C'est vrai, je suis un étranger, on me l'a assez répété. J'ai les cheveux couleur corbeau. Je viens du fond de l'Italie et j'ai l'accent de mon pays, italien jusque dans la peau. Je suis rital et je le reste, et dans le verbe et dans le geste. Vos saisons sont devenues miennes, mais ma musique est italienne.
Gare à vous.
Les premiers trains ressemblaient à quoi ? Évidemment, c'était pas des trains électriques.
Non, les premiers trains, c'était la train à vapeur. Les premières machines, c'était des machines à trois essieux couplés avec un tender séparé. Et puis la ligne Bienne-la-Chaux-de-Fonds a été électrifiée en 1934 et puis la Valletta-Avannes en 1937.
Votre vision contemporaine de ces pionniers du chemin de fer, en fait les 150 ans de l'introduction du chemin de fer dans le Jura, avec le recul, l'historien passionné que vous êtes, on se dit que peut-être aujourd'hui on manque d'audace, on manque de projets, on manque d'investissement par rapport à cette période-là.
Alors, premièrement, c'est une très grande considération pour ces gens-là. Et puis, deuxièmement, je reprends ce que vous venez de dire, on manque d'audace et on manque d'investissement. Un des gros soucis que j'ai pour l'avenir, pas seulement dans le Jura-Bernois, mais en Suisse, si je me base sur la relation qu'il y a entre les visions et le financement. Dans un monde idéal, il faut avoir des visions et puis il faut avoir le financement pour. Si vous avez des visions puis que vous n'avez pas de financement, on essayera d'en trouver puis on fera le minimum. Si vous n'avez pas de vision puis pas de financement, ben vous ferez rien puis vous ferez moins pas de conneries. Mais ce qui est extrêmement dangereux actuellement, c'est qu'on a du financement puis qu'on n'a pas de vision. Et puis là, on risque de foutre l'argent par les fenêtres.
Bonjour madame, pour Gare à vous sur la première.
Bonjour.
Ouais, non, juste savoir où est Sonsbo. Sonsbo.
Oh là là, moi j'ai perdu la tête, je peux pas vous répondre.
Ouais, j'ai perdu la tête depuis que j'ai vu Suzette. Je perds la raison chaque fois que je vois Suzon.
Ah oui, c'est vrai. Ah ben elle est là, je vais
oui,
la ramasser.
Oui, ramassez-la.
Voilà. Je la reprends et je vous la remets. Voilà.
Elle est bien centrée.
Oui.
Pas que je sois penchée tout de même.
Non, je crois que ça va bien. Bonne journée.
Merci, vous aussi.
Service public.
Dans la nuit sonnent les guitares. Demain nous paierons le prix de nos folies. La chaleur de ta peau, la chanson douce de l'oiseau. La voilà la vie, celle qu'on aime à nouveau. Il n'est jamais trop tard, car le ciel est infini. Et tes yeux sont comme deux. Jamais trop tard pour pardonner, se dire je t'aime, pour faire de ce long voyage un poème. Ce soir nous sommes unis par des mélodies qui résonnent. La voilà la vie, celle qu'on aime, celle qu'on donne. Il n'est jamais trop tard, car le ciel est infini dans les yeux de celui qui sait voir. Trop tard, quand je me plonge dans ton regard qui efface le monde et ses ombres. C'est le bleu de la mer, l'oasis dans le désert. La voilà la vie, celle qu'on aime, celle qu'on perd. Il n'est jamais trop tard, car le ciel est infini et nos larmes ne sont qu'un peu de pluie. Le ciel est infini et tes yeux sont comme deux miroirs.
Sillon, sillon avec Dutron, sillon dans les bois de Sonsbeau-Sombeval. Thomas, pas Jacques.
Chemin de fer et petites histoires, gare à vous.
Gare à vous à Sonsbeau-Sombeval. Parmi toutes les gares du Jura bernois, Francis Dettevillers, est-ce qu'il y en a pour lesquelles vous avez des coups de cœur particuliers?
J'aime bien la gare de Saint-Imier parce que c'est là que j'ai vécu. Et puis à l'époque de mon enfance, il y avait encore du trafic marchandises. Il y avait 20-25 wagons par jour avec l'usine à gaz qui recevait sa houille, également des marchands de combustible. Alors en soi, c'est une excellente chose qu'on ne se chauffe plus au charbon et puis qu'on ait remplacé le gaz de houille avec lequel on pouvait s'asphyxier avec le gaz naturel, avoir maintenant ce qui viendra. Une autre gare qui est extrêmement intéressante, c'est Rochenet avec l'usine ciment, mais aussi le souvenir du trafic avec la pâte de bois. Et puis Recovillé avec les deux usines Boyat, où les deux usines étaient reliées par chemin de fer, et puis qu'il y a des wagons qui appartenaient à l'usine, qui étaient manœuvrés par le tracteur de manœuvre de la gare entre les deux usines. Ça, c'est un fait qui est, à ma connaissance, assez exceptionnel.
Vers la fin des années 70-80, il y a eu une forme de déliquescence, entre guillemets, de l'économie, de la machine-outil, de tout ce qu'on sait faire dans le Jura bernois. L'âge d'or, c'était quoi, les années 50-60?
J'ai l'âge d'or, c'est un peu toujours celui qui a disparu. Je pense, même s'il y a d'immenses problèmes d'exploitation maintenant sur ces lignes, on n'a quand même jamais eu une telle densité de trains. Bon, la qualité de l'exploitation, ça reste un problème ouvert. Mais je crois qu'il faut faire attention non plus à ne pas trop embellir le passé. Mais je dirais que le chemin de fer était beaucoup plus varié à l'époque où il y avait notamment, ce qui m'a toujours intéressé particulièrement, le trafic marchandises. Il y avait à Saint-Imier, mais c'est une chose que je n'ai pas vécue, une brasserie, la brasserie qui avait ses deux propres wagons, comme de nombreuses autres brasseries à l'époque, Ça, évidemment, c'est plus le cas maintenant.
150 ans de chemin de fer, un article de Francis Detwiller à lire notamment dans la revue Intervalle qui sera publiée à l'occasion des journées du patrimoine des 7 et 8 septembre. Quelques mots sur cette revue?
C'est une revue, alors je commence par dire que je l'apprécie beaucoup. Elle s'occupe, je dirais, du Jura bernois, mais avec toujours une ouverture qui est indispensable à toute réflexion, et puis à la culture, mais vue de manière extrêmement vaste. Ça peut aller de l'urbanisme, des transports, la littérature, aussi l'aménagement du territoire, ou les localités, les fermes.
Merci beaucoup pour cet entretien. Dans quelques minutes, un autre Francis Boya. Et puis, on aura aussi l'occasion de parler Grand Chasseral avec Patrick Linder ou Lindre, comme on dit dans la région parfois. C'est pas comme ça qu'on dit. Hein.
Il y a toutes les prononciations.
Voilà, c'est bien, il ne se mouille pas, Francis Detwiller. Merci beaucoup.
Gare à vous.
Le Grand Chasseral, monsieur.
Je ne connais pas.
Le Jura bernois.
Non, mais bon, un petit peu.
Ouais. Est-ce que vous connaissez du Jura bernois? On fabrique quoi là-bas?
On parle vraiment du Jura, là, comment ça s'appelle?
Tous les matins, à 8h, le lait frais des pâturages du Jura arrive à la laiterie de M. Schneider.
C'est donc les moines du couvent de Bellay qui, dans les années 1400-1450, avaient un trop plein de lait, donc ils sont mis à fabriquer un fromage, et puis depuis, ça reste un fromage. La tête de moine.
La tête de moine.
La tête de moine, ouais.
Ah bah c'est déjà bien, un point.
Ouais, bravo.
Gare à vous, nous sommes à la couronne de Sonsbourg, en compagnie de Patrick Linder. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de la Chambre d'économie publique de Grand Chasseral.
Oui, absolument. Accessoirement, président de la fondation Grand Chasseral. Grand Chasseral, c'est la construction de Sons que nous avons établie en fin d'année 2022, dévoilé avec la volonté d'amener une nouvelle image pour cette région, partie francophone du canton de Berne, industrielle, reconnue loin à la ronde, mais peut-être pas toujours aussi bien que ce qu'on souhaiterait en Suisse. Alors on a lancé une série de démarches pour tâcher de réagencer tout cela.
On va voir pourquoi vous avez choisi ce nom de Grand Chasseral d'ici quelques instants, mais d'abord faire connaissance avec Francis Boya. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes historien.
Oui, en partie, puisque j'ai traité de l'histoire du village à plusieurs reprises, depuis le moment où j'étais étudiant jusqu'à ma retraite. Donc ça fait maintenant plus de 50 ans.
Commençons peut-être par l'histoire de Sonsbourg. On a parlé de l'histoire de la gare, mais quid de l'histoire de ce village? Sonsbourg, déjà le nom, Sonsbourg, Sombval.
Oui, alors il ne faut pas s'arrêter sur Sonsbourg, il faut effectivement toujours considérer que c'est Sonsbourg, Sombval. En fait, une localité qui a toujours été rassemblée au point de vue politique depuis la nuit des temps, mais dont les racines étymologiques sont différentes, je pourrais les expliquer tout à l'heure. Mais ce qui frappe quand on arrive ici, c'est qu'on est au fond d'une vallée, donc on a une vallée assez longue et assez large à la fin, et tout d'un coup elle est obstruée par le Monteau, ce qui donne la caractéristique principale du village et qui a aussi puissamment imposé son développement. Puisque à l'origine, on avait des méandres de la Suze qui arpentaient toute la plaine, si bien que les villages n'ont pas pu être construits au milieu de la vallée, mais plutôt sur le bord et sur le fond.
La Suze, donc je le dis à tous nos amis qui nous écoutent, c'est pas la bouteille de Suze, on buvait pas de la Suze partout dans la région, c'est le nom de cette rivière.
Oui, mais elle a donné le nom aussi à l'apéritif.
Qu'on vous a volé.
Oui, voilà.
C'est bel et bien ici, à Sonvilliers, en Suisse, qu'a été créée la Suze. À l'époque, ça s'appelait pas Suze, mais l'or des Alpes, et c'était une espèce de potion de plante que Hans Kapler, son créateur, vendait aux fermes aux alentours avec d'autres eaux de vie. Mais voilà, ruiné et en mauvaise santé, il avait besoin d'argent, et du coup, il a revendu sa recette à un certain Fernand Moreau, un Français qui passait par là, et qui l'a racheté et commercialisé plus largement. Donc la Suze, c'est bien suisse.
Donc le Monteau.
Le Monteau, donc, obstrue la vallée. Et sur le drapeau de Sonsbourg, on voit effectivement trois monts et trois sapins qui symbolisent ces trois montagnes qui entourent le village et qui sont fort différentes quand on les parcourt. Et on s'y dégage par le Perpertuis, mais aussi par Tournedos. Ces deux endroits sont très importants au niveau historique, puisque on a des deux côtés des traces romaines qui attestent du passage précoce dans la région.
Pierre Pertuis, Pierre Percé, bien évidemment. Oui. On parlait déjà de ce village, il y avait déjà des gens qui habitaient ici à l'époque ou pas du tout?
Alors on sait qu'en 866 exactement, il y a eu une mention du lieu sous le nom de Sumavalis qui indique l'origine du nom de Sombval. Et puis à ce moment-là, on attestait la présence d'une villa, de quelques fermes et d'une chapelle. Et Sumavalis, pourquoi c'est un nom romain, mais qui a été expliqué par certains historiens du village comme par sa traduction, qu'on peut dire « vallée haute ». Pourquoi « vallée haute » ? Parce que si vous montez depuis Bienne, vous passez successivement dans différentes vallées. Il y a d'abord Frainvilliers, ensuite Ronchâtel, ensuite le Val de la Hutte, et enfin on arrive dans le Vallon de Saint-Imier, qui est le point culminant avant de passer dans le bassin de la Birse par le Pierre Pertuis. Donc c'est comme ça qu'on explique ce mot. Sansbeau apparaît plus tard, en 1303, dans un acte de vente sous le nom de Sunzelbeau. Alors là, on n'est pas très au clair sur l'origine de ce mot, mais on pense que ça vient d'un colon germain qui se serait appelé Sundabolt, d'après un historien qui s'appelait Jacquard. Mais d'autres historiens, Gerber et Simon, qui ont travaillé sur la région, pensent que c'est la fusion de deux noms. Donc le premier, Bose, qui signifie en patois bois, et Souzo, qui serait aussi le nom d'un colon germain qui aurait donné en même temps le nom à cette célèbre Suze, et aussi au Sousingum, qui est le synonyme du Vallon de Saint-Imier.
Gare à vous.
Bonjour monsieur, gare à vous dans le Jura bernois, Grand Chasseral. Vous connaissez Grand Chasseral?
Non.
Chasseral?
Non, laissez-moi tranquille.
Voilà.
Quand faut s'en défaire, c'est coton. Laissez-moi tranquille, laissez-moi tranquille, laissez-moi.
On revient à l'histoire dans quelques minutes avec vous, Francis Boyat. Il y en a des tonnes à raconter, mais peut-être revenir maintenant à l'époque contemporaine, des visions d'avenir aussi, qui sont promulguées par Grand Chasseral, cette nouvelle étiquette. Certains prétendent que c'est très marketing. Qu'est-ce que vous leur répondez? Ça englobe quoi, Grand Chasseral? Pourquoi avoir développé cette marque, puisque ça en est une?
Grand Chasseral, c'est une tentative de co-rédiger un nouveau narratif sur la région qu'on appelle institutionnellement le Jura bernois, avec la volonté de valoriser un certain nombre d'éléments identifiés réels qui spécifient cette région. Donc l'objectif final, c'était de redonner un peu de côté positif. Donc les techniques qui ont été choisies s'inspirent effectivement du marketing territorial ou de la promotion territoriale. C'était aussi une manière pour tous les acteurs qui se sont engagés dans l'aventure de définir clairement leur périmètre d'action, parce qu'ils font pas de politique. Donc ils ont décidé de travailler sur l'image et la représentation dans un champ qui était pleinement légitime, c'était le leur. C'est celui de l'économie, du tourisme, de l'agriculture, de la culture, du sport, des communes et puis du parc naturel qui est aussi dans l'aventure. Donc avec tout ce terrain de jeu, ben, ça représentait déjà une bonne partie de ce qu'était la région. Action d'abord de ce côté-là et puis très vite, les propositions qui ont été faites ont rencontré un certain succès. On s'est rendu compte que cette construction, insistons vraiment là-dessus, de Grand Chasseral est rapidement entrée dans le langage courant, rapidement entré dans les mœurs également, et a donc à déborder du périmètre qui était initialement prévu, ce qui démontre la réponse à un besoin identitaire profond, incontestable, et puis surtout la capacité de ce concept à transcender les clivages qui ont pénalisé la région pendant quelques années, à rassembler au-delà de ce qui a pu fâcher, et donc c'est là que nous décelons aujourd'hui une dynamique, je dirais, profondément positive, novatrice, qui s'articule sur des approches créatives et intégratrices.
Jura bernois, c'était péjorant pour développer l'histoire de la culture, du tourisme, de l'économie régionale.
C'est, en tout cas, selon les études qui ont été menées, ce n'était pas le meilleur moyen ou le meilleur vecteur de communication. Il y a d'abord un certain nombre de problèmes de positionnement. Les gens ils parlent français, c'est revendiqué. D'ailleurs, le mot « grand chasseral » le rappelle. Hein, pour plaisanter, j'ai l'habitude de dire que « grand chasseral » en anglais ou en allemand, en suisse-allemand, on dit « grand chasseral ». Ça dit que, on peut le dire avec l'accent qu'on veut, il est sûr que revendiquer cette culture francophone est un aspect important, mais il est vrai aussi que cette région est bernoise, francophone bernoise. C'est parfois difficile à faire comprendre ailleurs en Suisse, donc Grand Chasseral a pour vocation de contribuer à résorber ce petit déficit de communication. Et puis, il a fallu constater aussi que la notion elle-même... portait en germe un clivage qui a fait débattre et puis il s'agissait de le dépasser pour passer à une nouvelle étape.
Tourner la page
et proposer une nouvelle solution qui rassemble au-delà de ce qui a pu diviser.
Géographiquement parlant, Grand Chasseral, c'est quoi ? Ça va jusqu'où ? Parce que certains ne voient pas le Chasseral depuis leur balcon et pourtant ils sont englobés dans Grand Chasseral.
Oui, ça me rappelle cette petite histoire de Confucius. Enfin, on lui prête, vous savez, c'est l'histoire du sage qui montre la lune et il y a un imbécile qui regarde le doigt.
Ah, c'est pas celui qui se couche.
Non, c'est pas celui-là. Non, alors parler trop de l'antenne ou parler trop de la montagne, c'est peut-être un peu regarder le doigt. Finalement, Chasseral était une notion qui rassemblait, qui permettait de prendre de la hauteur. Et c'est le signal de la région. Lorsqu'on est loin, le Chasseral, on le voit. Et donc, il signale la présence de cette région-là. C'est à ce titre-là qu'il a été choisi comme option principale, parce que c'est un vaisseau plein en termes de sens, un vaisseau plein en termes de signification et de positionnement. Prenons l'exemple de nos amis valaisans. Ils ont adopté pour leur marque territoriale comme symbole le cervin. Je suis pas sûr que tous les valaisans puissent admirer le cervin dès le matin. Par contre, c'est un symbole qui est pas débattu. On est dans le même type de processus. C'est ce qui permet de mettre en lumière un certain nombre de choses, un certain nombre d'éléments qui ont été identifiés factuellement, qui existent, qui font la force de cette région. Et qui gagne un nouvel éclairage au travers de ce concept. Donc Grand Chasseral n'a pas pour but de remplacer ce qui existe, mais plutôt de mettre en valeur ce qui fait notamment la force de cette région. Il y a évidemment des arguments très forts du côté de l'industrie. Le Grand Chasseral, c'est un emploi sur deux dans le secteur secondaire, avec toute une série d'entreprises à la pointe, compétitives au plan international, mais c'est aussi... une qualité de vie, une culture qui existe en marge de tout cela et qui sont tout à fait spécifiques à cette région.
En termes d'image, comment est-ce qu'on arrive à inverser une image, entre guillemets, neutre ou négative ? On fait quoi ? Des campagnes d'affichage ? On fait des clips ? On est présent sur les réseaux sociaux ? On fait venir des quarts entiers de Valaisans pour leur dire que nous aussi, on a des choses à voir ? Comment est-ce qu'on procède ?
Alors c'est toute la question. Il y a un certain nombre de particularités qui sont quand même liées à l'introduction d'un nouveau nom ou d'un nouveau concept. Donc on part pas de zéro, mais peut-être de moins cinq, hein, avec déjà une région à gagner à cette idée-là. C'est la phase dans laquelle nous sommes aujourd'hui, avec un taux de pénétration que nous trouvons extrêmement bon, une adhésion globale qui est très très bonne. On peut dire aujourd'hui qu'il y a des sociétés qui ont déjà intégré le mot Grand Chasseral en substitution de Jura Bernois dans leur raison sociale. Il y a des associations qui ont changé de nom pour embarquer cette nouvelle notion qui est jugée rassembleuse et porteuse. Même les partis politiques l'ont fait sans que... Sauf un qui ne l'a pas encore fait. On a pu constater qu'il utilisait la notion de Grand Chasseral dans certains de ses communiqués de presse, alors ça nous a rassurés. Non, donc il y a vraiment une espèce de pénétration tout à fait réjouissante. Ça, c'est la phase 1 qui doit permettre d'installer le concept et de faire l'unanimité dans la région. Et puis ensuite, lorsqu'on le tourne vers l'extérieur, ce qui va arriver dans les prochaines années, on a la chance de pouvoir s'appuyer sur des méthodes et des techniques qui sont éprouvées, utilisées dans la communication territoriale de beaucoup d'endroits. Donc ça passe effectivement par une communication intégrée, mobilisant des campagnes, des événements, de la sensibilisation. Ce qui primait de notre côté, c'était d'amener une nouvelle image qui offre de la cohérence, qui articule l'existant dans un sens positif. Et puis c'est ce qui est en train de se passer à notre sens.
Bonjour, RTS La Première. Une question concernant le Jura bernois. Quelle image avez-vous de cette région, le Jura bernois ?
Magnifique.
Ça ressemble à quoi ?
Très beau.
Personne ne peut entrer. Une gare souvenir privée. entouré de chambres d'enfants. Il n'y a pas la place, il n'y a pas le temps. Personne n'est invité à la folie, passionnément. Un peu, beaucoup, pas du tout. Amour toujours, mais pas longtemps. À la folie, passionnément.
Des trains. Et dans vos oreilles, ce fut Clara Luciani, retour à la gare de Sonsbeau-Sombeval, Grand Chasseral. Encore de l'histoire dans Gare à vous avec Francis Boyat qui vous dit tout sur Sonsbeau-Sombeval.
On n'oublie pas, c'est ce qu'on disait avec Francis Detvillers, que depuis Bienne, c'est à peu près 13 minutes jusqu'à Sonsbeau, une heure de Lausanne jusqu'à Bienne, une heure et quart pour venir depuis Lausanne. C'est quand même assez incroyable que cette région, cher Francis Boyat, est toujours considérée comme périphérique, alors qu'à l'époque, c'était une région de passage, c'était une région différente de l'image qu'elle a aujourd'hui, à travers l'histoire.
Oui, mais bon, il faut s'imaginer que dans le temps, il n'y avait pas énormément de gens qui passaient, hein.
Oh, donc, il y a eu Goethe quand même.
Il y a eu Goethe, oui.
Ça, il y a eu des Suédois aussi, des Frichés, des Buissonnés.
Ils n'avaient pas tous d'excellentes intentions. Il faut dire qu'à l'origine, on n'aimait pas trop l'étranger ici dans la région. Quand un étranger arrivait, en général, on le conduisait poliment à la frontière du village voisin. Donc, je me souviens que dans la vieille école qui se trouve au milieu des deux villages, il y avait ce qu'on appelait la passade. C'est-à-dire, c'était un endroit où on pouvait héberger quelqu'un pour une nuit. Et c'est le garde-police qui vivait dans l'école en face qui devait lui faire une soupe le soir. Donc, on se souvient de ça, mais bien sûr, tout ça, ça a disparu.
On mange mieux maintenant chez Soldati qu'avec le flic qui faisait des soupes.
Probablement. Mais d'ailleurs, la passade n'existe plus, puisque l'ancienne école a été transformée.
L'histoire est vaste de ce village. Évidemment, vous la connaissez sur le bout des ongles. Il nous reste peu de temps pour évoquer l'histoire de Sonsbeau-Sombeval. Mais quelles sont les étapes que vous aimez à défricher en termes d'histoire les périodes qui vous plaisent, peut-être des anecdotes, peut-être des moments particuliers, des personnages du village.
Moi, je pense que le 19e siècle est fascinant parce que c'est autour de 1850 que tout a basculé.
Avec
ici.
Le train.
Non,
ici, les industries
non.
Du train.
Curieusement parlant, ce n'est pas le train qui a fait démarrer tout ça, mais c'est les entreprises horlogères. Absolument. Donc, la richesse profonde qui existait avant l'industrialisation, c'est la force de l'eau dans le vallon de Saint-Imier. Mmh. C'est d'ailleurs ça qui a fait descendre toute l'horlogerie des montagnes. Et avec la force de l'eau, on faisait plein de choses. Ici, à Sonsbeau-Sombeval, il y avait trois lieux importants qui étaient alimentés par l'eau. Et en particulier, au fond du village, le moulin de la Vauche, qui a été racheté par deux entrepreneurs en 1849 et qui ont fondé ce qui va devenir la fabrique d'ébauche de Sonsbeau, qui est le départ industriel d'une longue histoire industrielle qui commence là en 1849 et qui continue maintenant sous l'appellation Sonsbeau et ça.
Mais est-ce qu'on pourrait dire, pardonnez-moi de vous interrompre, Francis Boyer, mais est-ce qu'on peut dire que l'avènement du chemin de fer a aussi permis de développer l'industrie?
Alors, ça fonctionne certainement en parallèle. D'ailleurs, les entrepreneurs de la fabrique d'ébauche étaient des parties prenantes pour ces chemins de fer. Et à la base, il était prévu de faire une gare entre Sonsbeau et Courgémont. Et grâce aux interventions de Rosselet, qui était l'entrepreneur de la fabrique d'ébauche, il a réussi, en payant un supplément, d'avoir une gare où elle se trouve maintenant. Donc pour lui, c'était crucial parce que les ébauches s'exportaient jusqu'en Pologne.
Ébauches ?
C'est la pièce maîtresse d'une montre, c'est en somme l'architecture de base dans laquelle on construit la montre. Et les ébauches de Sonsbeau étaient reconnues pour leur qualité. D'ailleurs, l'entreprise a été extrêmement florissante puisque la famille Rosselet a repris pratiquement toutes les propriétés des anciens notables, les familles Bourquin qui ont construit le bâtiment où on se trouve et celui qui est en face.
Alors parlons de cette couronne pour terminer cet entretien. Oui. Histoire de la couronne de Sonsbeau.
Alors, cette histoire, on la connaît bien maintenant, puisque lors de la rénovation, il y a eu des fouilles archéologiques. Donc, on avait dans l'idée, ici, dans le village, que ce bâtiment datait de 1707. Et on voyait ça dans la globalité, mais on se rend compte que ce bâtiment était construit en plusieurs étapes. Et si on regarde son évolution en travers du 19e siècle, et en particulier quand il y a eu la construction des chemins de fer, le bâtiment a dû s'adapter. Donc, les anciennes écuries ont été transformées en appartements et aussi en chambres d'hôtel parce que ici, c'était la gare. Et puis, tout d'un coup, plus rien. Donc, il y avait simplement des passagers à pied, peut-être. Mais le principal s'est passé après à l'emplacement de la gare. Donc, ici, il fallait trouver une autre affectation. Et c'est devenu aussi un peu le centre des activités locales, notamment la société de gymnastique qui avait son local ici. Et puis il y avait la salle des fêtes qui a été détruite pour faire toute cette annexe qui existe maintenant.
Dernière chose, Francis Boyer, quelques lieux à visiter à Sonsbeau pour tout un chacun qui aimerait venir se perdre entre guillemets dans cette région, Sonsbeau. Qu'est-ce qu'il ne faut pas rater?
Alors, je dirais, il y a le temple à Sonsbeau, qui a son cachet, qui a aussi toute une histoire. Mais il y a aussi, si on veut, l'archéologie industrielle. Parce que si on regarde le bâtiment de Sonsbeau et ça, on voit que tous les bâtiments sont restés. Donc, le premier bâtiment qui a été construit en 1849 existe toujours. Et l'entreprise s'est agrandie et chaque fois, on a ajouter des parties de bâtiments avec les styles particuliers de leur époque industrielle. Donc, quand on regarde du sud au nord, on voit toute cette évolution. Et on voit que ça fait partie d'un tout. Donc, tout a été, en somme, organisé et puis s'est développé assez harmonieusement ici, malgré des périodes plus difficiles, comme la crise de 1929 ou bien les crises horlogères des années 70.
Merci beaucoup, Francis Boyer, pour ces éclairages historiques. On termine avec la couronne version moderne, Patrick Linder.
Ouais, elle se trouve au cœur de la région Grand Chasseral. Le Grand Chasseral, c'est une petite Suisse. Hein. Il y a des montres, il y a du chocolat, il y a du fromage, il y a du cadre naturel. Et puis, c'est ce modèle de développement économique alternatif qui fait de notre fierté d'une certaine manière, parce que possibilité de trouver de l'efficience industrielle tout en offrant une qualité de vie harmonieuse avec toute une série de possibilités de loisirs. Et plus la saturation urbaine s'accentue, plus ce type de modèle gagne en intérêt. Et donc, on est très heureux d'avoir par moment un taux d'autonomie énergétique renouvelable autour de 90%. Il y a sûrement une équation à étudier un peu mieux quand on vient dans le Grand Chasseral.
Ouais, vous avez eu le temps de réfléchir à ma question précédente. Quels sont les lieux que vous affectionnez dans cette région du Grand Chasseral ?
Alors, je recommande absolument d'aller déguster une assiette dans une métairie à l'issue d'une bonne marche, monter la Combe-Grède à Villeray, puis aller, pourquoi pas, à la métairie de la Meringue. Incontournable, le musée Longines ou les énergies renouvelables à Mont-Soleil. Terminez chez Camille Bloch, puis vous aurez déjà un petit bout de cette région du Grand Chasseral.
Toutes les informations sont disponibles sur le site Grand Chasseral, j'imagine.
C'est le cas, bien sûr, et bien d'autres.
Merci beaucoup, Patrick Linder.
Mais merci à vous, merci pour l'intérêt montré.
C'était un plaisir. Merci beaucoup, merci Francis Boyard.
Merci, bonne soirée.
Et salutations aux Eschbachers de Perfit.
Oui, je ne manquerai pas.
À Gladys.
Voilà, tout voilà. À fait.
À Gladys, on te salue. Désolé d'avoir fait un petit peu de private joke, comme on dit, de gag privé. Mais quand on nous donne des salutations et qu'on ne voit pas les gens, on est bien obligé de le faire à travers les ondes. Merci beaucoup. D'ici quelques minutes, je retourne à la gare de Sonsbeau-Sombeval. Vous pouvez d'ailleurs, sans autre, venir voir la gare en train et repartir. Elle vaut le coup d'œil. On peut notamment aller voir Sandra et Sarah qui ont le Quai 29, qui est un magasin conceptuel, un concept store, comme on dit, ici à Grand Chasseral. Bonjour Monsieur Garavou, la première, quel est votre numéro de quai favori ?
1 et 2
ah ouais, et puis le 29
le week-end.
Quai 29, gare de Sonsbeau-Sombeval. Garavou, retour à la gare de Sonsbeau-Sombeval, quai 29 avec Sandra et Sarah. Qui est qui ?
Alors, je suis Sarah.
Et moi, Sandra.
Évidemment.
Eh bien oui.
Quai 29, c'est quoi ?
C'est un concept store qui est situé dans la gare de Sonsbeau, donc un magasin où vous trouvez tout pour l'ameublement, pour des idées cadeaux, des plantes, tout ce qui fait plaisir à offrir ou bien à s'offrir à soi-même.
Une petite restauration aussi ?
Alors on est vraiment un petit café 6 places, c'est plus pour passer un petit moment convivial ou bien si on attend son train. On a des croissants le matin, on offre toujours un petit biscuit qu'on fait nous-mêmes et tout avec les cafés, mais non, on fait pas de restauration autrement.
Comment est né ce magasin conceptuel qu'on peut appeler Concept Store ici au Grand Chasseral, à Sonsbeau-Sombeval? Qui a eu l'idée? Pourquoi ici?
Alors c'était une lubie ou une idée folle qui a duré sur des années, je dirais. C'était un petit peu notre délire parce qu'on se voyait toujours à notre lieu de travail. On travaillait pas ensemble mais au même lieu. Puis on allait dîner, puis on a toujours eu cette idée, mais ce serait super cool de faire un magasin avec un café. Et puis on élaborait tout ça, mais tout en se disant ben ça reste un rêve un petit peu fou. Et puis, une fois, Sarah, qui était un petit peu plus avancée dans son travail, elle l'avait plus. Elle a dit, mais écoute, mais maintenant, ça serait le moment de faire quelque chose. Et moi, j'ai dit, écoute, mais j'étais un peu pris de court. J'ai dit, mais moi, c'est le coup de cœur qu'il me faut. Qu'elle m'a amené, d'ailleurs.
Mais comment faire un truc ici à la gare de Sonsbeau?
Alors, moi, je viens de Sonsbeau. Sandra y a habité passablement d'années aussi. Et c'est vrai que le lieu est vide depuis bien longtemps, passé 20 ans. Et c'est vrai que je me suis toujours dit qu'il y avait un potentiel justement par rapport à la surface et tout ça. Et je m'étais déjà renseignée une fois, mais il n'était pas alloué. Et quand elle m'a dit que le coup de cœur la ferait basculer, j'ai commencé à chercher. Et comme par hasard, la gare de Sonsbeau était allouée.
Description des lieux, un lieu très beau, très cosy.
Mais le plus beau.
Chaleureux.
Très chaleureux. Et puis avec notre personnalité à chacune. Donc ça mène aussi quelque chose à la boutique. Et puis décrire, alors vous êtes dans un lieu, dans les, je sais pas, est-ce que je vous décris un peu les teintes, oui, dans les verts, vert sauge. Un lieu très aéré, avec les murs qu'on a gardés. C'était les murs pour le guichet, des tickets, et puis on a essayé de garder un petit peu ce cachet.
Est-ce qu'il y a des gens qui viennent chercher des billets ici ou des renseignements ferroviaires ?
Alors tout. On est tout. Ici, on est le magasin, en fait, mais en fait, on est aussi le bureau de renseignement, on est le taxi, parce qu'il y a des gens qui échouent chez nous et à cause qu'ils ont loupé un train ou bien parce qu'il n'y a plus de train. Donc, on fait taxi, on fait renseignement, on fait...
Infirmière, parfois. Voilà. Infirmière, parfois, aussi. S'il y a des blessés ou comme ça, ils ont tendance à rentrer chez nous pour demander de l'aide. Donc, c'est vrai qu'on est l'office du tourisme, on est... Oui, on peut faire beaucoup de choses.
C'est pas agaçant?
Alors, parfois, ça peut l'être un petit peu, mais en général, c'est des belles rencontres quand même. Et puis, les gens sont vraiment sympathiques avec nous et boivent volontiers après un café ou bien reviennent pour des achats. Donc, c'est un bel échange en général.
Pourquoi Quai 29?
Ben, il nous fallait un nom court, donc quai, ben, parce qu'on est dans une gare. Et puis tout le monde nous demande si c'est par rapport à Harry Potter et tout, mais en fait, tout bêtement, on est les deux du 29 mars. Et on s'est dit, ben, 29, ça nous lie les deux, et c'est très court, ça nous plaisait bien.
Heureusement que vous n'êtes pas du 29 février.
Ah, ça serait été plus bête.
Qui est 28, qui est 29.
Là, on aurait pu changer.
Tous les 4 ans.
Ouais. Ouais, exactement.
Est-ce que parfois c'est difficile de faire tourner ce genre de boîte ou alors une fois que c'est implanté, ça roule, ça tourne, vous avez votre clientèle parce que voilà, l'endroit est incroyable, insolite, inédit, il propose des produits de haute qualité. Ben, est-ce que c'est facile de les vendre parce que c'est aussi ça le nerf de la guerre, entre guillemets, le nerf de la gare même?
Absolument. Non, c'est pas toujours facile, mais on a notre clientèle, je dirais quand même. Bien sûr, il faut qu'elle s'élargisse encore, mais on a des gens qui viennent même de loin parfois parce qu'ils aiment ce genre d'endroit.
Le Courtébert.
Ouais, même plus loin. On a même eu des Londoniens.
Ah
hein.
Ouais,
oui, 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 oui. Non, quand même. On est cosmopolite. Voilà, exactement. C'est ça qui est magnifique, c'est qu'on fait des rencontres incroyables parfois parce qu'on est un lieu de passage. Donc non, c'est pas toujours facile, mais franchement, pour le moment, on est très content d'expérience et ça se passe relativement bien.
C'est quoi le produit signature de la maison? Enfin, vraiment le truc dans lequel vous excellez, vous pensez avoir peut-être une forme d'expertise?
Alors, je pense que les lacrites de Bulot, c'est de la réglisse enrobée de chocolat. Ça, c'est, je pense, quelque chose qui cartonne bien. On a des bougies odorantes du sud de la France qui est aussi quelque chose qui est super. Les plantes aussi, et puis la gamme, je dirais aussi, des petites souris. On a des souris super sympas. Ouais.
Des souris, c'est-à-dire?
Des petites pluches, mais toutes petites dans des boîtes.
Ah, vous peut-être pas de l'élevage de souris, vous ne dressez pas
encore,
des souris.
Pas encore, mais qui sait?
Ah, je vois une là-bas.
C'est une vieille gare, tout est possible.
C'est facile de s'installer dans une gare? Est-ce qu'on est obligé de respecter certaines choses? Parce que voilà, il y a les voies juste à côté. Est-ce qu'on vous a dit, OK, vous pouvez faire un magasin, mais n'oubliez pas que tatati, tatata?
Il y a quand même des choses auxquelles on doit faire attention, surtout parce que le bâtiment est protégé quand même. Donc, on n'a pas pu faire, par exemple, les enseignes. On a dû regarder avec le patrimoine pour pouvoir faire ce qui était autorisé. Mais on a trouvé un bon compromis, donc ça s'est bien passé.
Si vous deviez inciter des gens d'ailleurs de venir ici découvrir Quai 29, qu'est-ce que vous leur diriez?
Moi, je dirais qu'ils viennent dans un endroit justement un petit peu insolite avec deux femmes très marrantes et puis très sympas et puis que ça vaut la peine de découvrir ce lieu.
Merci beaucoup, Sarah, Sandra. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Plein de gens qui viennent suite à cette émission.
Ah, mais oui, alors, vraiment.
Un café pour la première personne qui a écouté l'émission et qui vient ici.
Absolument, alors, oui. Hein? Tout à fait ouvert à ça.
D'accord. Le nom de code, ça sera quoi? Le mot de passe?
Duja, ouais. Eh ouais.
Voilà, c'était Gare à vous à Sonsbeau-Sombeval avec Sandra et Sarah. Merci beaucoup pour votre accueil.
Merci infiniment d'être venu.
Et puis bravo pour ces vibrations. Il y a des vibrations extrêmement positives dans cette gare grâce à vous.
Ah ben merci. Et puis après ton passage, elle va encore être mieux.
Ah, ça, c'est pas garanti.
Ah ben si, j'y crois.
Merci beaucoup.
Merci déjà.
On se retrouve la semaine prochaine. Nous serons à la gare du Day, qui est juste située à côté de Valorbe. On parlera d'urbanisme, de développement de villages, d'économie et aussi de culture. Merci à vous, merci notamment à Nicole Fontana qui m'aura aidé à préparer cette émission. Merci à vous, merci pour votre fidélité. D'ici quelques minutes, c'est le kiosque à musique. Je vois d'ailleurs Jean-Marc Richard qui traverse la rue à cloche-pied avec son flutio. À vous les studios, à vous Lausanne. Sous vos applaudissements. I went out for a little walk.
was short on hope, but I'm love. I know it. You and I, we're gonna make it somehow. It's the park where I sit for hours. It's the coffee folks and the walkers. I know it. You and I, we're gonna make it somehow. I don't see no dark clouds ahead. It's gonna be a fine, fine day. I know it. We're gonna make it, you and I.
Le kiosque à musique à destination de midi et demi est en place.